Chers amis, bonjour. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'émission Rencontres sur Radio Accor. Nous sommes en partenariat avec l'Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Alors aujourd'hui, nous recevons Josiane. Josiane a choisi de nous parler du pèlerinage au Moyen-Âge. Josiane, bonjour.
Bonjour, Claude.
Eh bien, Josiane, dites-nous en un mot, d'abord, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie ou qu'avez-vous fait?
Je suis médecin biologiste et brocanteur, passionnée par les contacts humains et l'histoire de l'art. À travers les rencontres, les monuments et les paysages, j'ai retrouvé tous mes centres d'intérêt sur le chemin de Compostelle, sans oublier, bien entendu, la motivation religieuse.
Oui, vous êtes parti en pèlerinage jusqu'à Santiago,
Non, j'ai cette année fait le tronçon Saint-Jean-Pied-de-Port-Burgos, mais j'espère bien reprendre le chemin l'année prochaine.
Oui, voilà, une bonne histoire et une bonne suite. Vous avez choisi le sujet du Moyen-Âge, pourquoi ce choix?
Je pense que poser ses pas dans ceux des pèlerins du Moyen-Âge, a quelque chose de fascinant. Le XXIe siècle donne la main au XIe siècle à travers les pèlerins.
Je comprends, passionnant. Et comment voyez-vous ce pèlerinage? Vous avez une définition particulière de ce...
J'ai une définition qui correspond à celle, je pense, le plus souvent trouvée dans les ouvrages que j'ai consultés. Le pèlerinage est un voyage, individuel ou collectif, qu'un homme fait vers un lieu saint. Les raisons profondes sont rarement exprimées. Ce peut être l'accomplissement d'un vœu, d'une pénitence, la recherche d'une grâce, d'un espoir. Notre vagabond de Dieu, retranché des siens et de sa communauté, devient peregrinus, en latin. L'étranger, et ce, pour le temps du pèlerinage.
Oui, il l'était déjà peut-être un peu avant de s'en aller, il avait ça dans la tête. Et dites-moi, vous avez parlé de documents, de livres que vous avez lus, vous avez donc des références de cette période?
J'ai lu beaucoup, j'ai retenu 3 livres. Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, d'Emeric Picot, traduit en français par Jeanne Vieillard, le texte en latin est du XIIe siècle. C'est la librairie philosophique Vrin qui a fait la réédition en 1997. Ensuite, « Priez pour nous à Compostelle » de Barré et Gurgan, librairie Hachette, 1978. Et enfin, « Pèlerin du Moyen-Âge » de Raymond Oursel chez Fayard, 1995.
Oui, ça fait quand même de bonnes références et surtout de quoi lire et de quoi se documenter. Alors, au Moyen-Âge, les pèlerinages importants, qu'est-ce qu'on avait comme pèlerinage important qui existe encore aujourd'hui?
Ils étaient au nombre de 3. Les Pommiers, pèlerins de Terre Sainte, allaient à Jérusalem et rapportaient des palmes de Jéricho. Les Romais cheminaient vers Rome. Les Jacquets ou Jacquaires prenait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces 3 pèlerinages existent encore? Celui de Jérusalem, quelques personnes y vont à pied?
Quelques-unes,
oui.
Rome également, mais Saint-Jacques de Compostelle, à l'heure actuelle, éclipse les autres pèlerinages.
Et vous avez retenu le pèlerinage à Saint-Jacques, pour nous parler de ce pèlerinage au Moyen-Âge, parce que Santiago, à ce moment-là, le pèlerinage au Moyen-Âge, à Santiago, est plus important que les autres, peut-être, au XIe siècle, plus facile
Au XIe siècle, jusqu'à 1000 pèlerins venus de toute l'Europe visitent chaque jour le tombeau de l'apôtre. À partir du XVe siècle, c'est le déclin. 40 pèlerins seulement assistent à la grand-messe du 25 juillet 1867. Nous vivons aujourd'hui un renouveau tout à fait exceptionnel.
Bon, alors pour le pèlerinage, vous dites 1000 par jour, ça faisait près de 300 000 par an.
Oui.
Énorme.
Énorme.
Énorme, en effet, tous ces gens qui se précipitaient vers Compostelle, vers Santiago. Et ce pèlerin, alors parlez-nous-en, on vous écoute.
Alors, le pèlerin, si vous avez l'occasion d'aller à Châtellerault, à l'église Saint-Jacques, vous saurez ce qu'est le pèlerin. Vous y découvrirez, dans une demi-obscurité, un Saint-Jacques en bois doré polychrome, tout à fait naïf et émouvant. Pour moi, il représente à la fois Saint-Jacques et le pèlerin du Moyen-Âge. Un chapeau, ou pétase, relevé sur le devant et assez large pour couvrir les épaules en cas de pluie. Il est de feutre, de lapin ou de castor. Cela dépend de la fortune du propriétaire.
Je comprends, il fallait des sous pour s'en aller.
Orné d'une ou plusieurs coquilles. Une pèlerine de laine, elle sera manteau le jour. Couverture la nuit. Dans sa main, le bourdon. C'est un bâton de marche, le premier attribut du pèlerin. Pas de bourdon, pas de pèlerin. Le bâton d'espérance, ferré de charité, revêtu de constance, d'amour et de chasteté. C'est la chanson du devoir des pèlerins. La besace, c'est un sac en peau qui contient les menus trésors du pèlerin, tels que quelques vivres, les cris du curé, son chapelet. Elle se porte en sautoir. Et puis une calebasse. C'est une courge séchée qui sert de gourde. Notre pèlerin est prêt, revêtu de ses attributs. Mais il y a un point capital. Je dirais même inimaginable pour le pèlerin du XXIe siècle. Figurez-vous que la marche et les cailloux du chemin arrivaient si vite à bout des chaussures, des jaquets, que nombre d'entre eux firent une bonne partie du chemin nu-pied. Dans certains monastères, dérogation unique de la chrétienté, la règle prévoyait que le frère cordonnier pouvait travailler le dimanche sans exposer le salut de son âme à seule condition de le faire pour les pèlerins. En confidence, de nos jours, comme au Moyen-Âge, les pieds sont l'objet de la plus haute sollicitude.
Ça, je le crois bien, mais enfin, le coup du frère cordonnier qui avait une dérogation pour travailler le dimanche, il y a quelques ministres qui pourraient s'inspirer de cette loi.
Hein. Il faut peut-être vérifier.
Oui.
Notre pèlerin est prêt. Il part de chez lui. Il a écouté la messe. Son curé l'a béni. Il a embrassé femme et enfant. Les larmes coulent. L'absence sera longue, les dangers nombreux et réels. Il compte sur sa foi pour aller jusqu'au bout de ses vœux. Il sait que l'itinéraire va se tracer au gré des circonstances, qu'il trouvera des compagnons, que tout chrétien lui doit assistance, que les seigneurs et les chevaliers ont pour devoir de le protéger, que les abbayes, les hospices et les hôpitaux sont là pour le soigner et l'héberger. Il s'est confessé. Il est prêt. En fait, dans sa tête, il est déjà parti le jour où il a pris sa décision.
Oui, je pense que pour le pèlerin du Moyen-Âge dont vous nous parlez, ce pèlerin qui est prêt, le pèlerin d'aujourd'hui, pour ceux qui se veulent un peu pèlerins, après avoir fait leur préparation, ils sont aussi prêts. Il y a peut-être moins de cérémonial religieux dans le départ des pèlerins d'aujourd'hui. Il y a peut-être moins de foi apparente, extérieure, mais je pense que dans leur tête, je connais beaucoup de pèlerins, dans leur tête, ils étaient déjà partis un mois avant. Oui. Et alors, donc, il est parti, il s'en va.
Il s'en va. Et il faudra qu'il revienne.
Oui, alors.
Le retour sera aussi dangereux et aussi long que l'aller. Mais, partout, le pèlerin qui revient est accueilli avec joie. On l'embrasse, on touche ses vêtements, on le fête. On l'écoute, il a tant à raconter. C'est avec fierté qu'il va sculpter au linteau de sa porte une coquille Saint-Jacques. Et il sait que dans sa tombe, il emportera avec lui ses attributs de pèlerin.
Avez-vous trouvé quelque part que le pèlerin, à son retour, bien entendu, était fêté? Il était bien sûr reconnu, il avait été absent 4-5 mois, 6 mois peut-être. Donc on le reconnaissait, il n'avait pas changé. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où le pèlerin a essayé d'abuser de cette situation de pèlerin au retour pour avoir une meilleure place, un petit avantage? Vous n'avez pas trouvé ça dans les documents? Ce n'est pas dit.
J'ai pas trouvé ça. C'est possible parce qu'il a quand même fait preuve au cours de sa pérégrination d'une grande force de caractère. Donc c'est possible qu'il puisse l'utiliser ensuite.
Oui. Enfin, je pensais à ça parce qu'il est bien connu que les pèlerins, dans certaines religions, le pèlerin a une aura autour de lui. Quand il revient, on lui attribue plein de qualités qu'on ne lui donnait pas au départ, mais ça a servi à ça, au moins le pèlerinage. On lui donne beaucoup de capacités, de capacité d'aider les autres, de capacité de se donner aux autres. Et finalement... Eh bien, il est devenu quelqu'un d'exceptionnel dans le village, dans le bourg, peut-être même dans le quartier de la ville où il habitait.
Il le mérite sûrement.
Oui, il le mérite. Et vous me l'avez dit, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il sculptait sur sa porte le signe de son pèlerinage. C'est ce qu'on retrouve quand on retrouve des coquilles Saint-Jacques au fronton des maisons, sur les linteaux. Il a bien marqué sa trace. Les pèlerins d'aujourd'hui font un peu pareil. Hein. J'ai vu des endroits où certains pèlerins avaient laissé une chaussure, d'autres avaient mis une conque, les troisièmes avaient mis l'épée flamboyante de Jacques. Oui.
L'homme Alors, veut toujours laisser une trace.
Ben oui, et ça montre au moins qu'on est fier de ce qu'on a fait d'une part, et puis deuxièmement, qu'on le fait savoir. Alors, continuons. Il rentre, vous nous aviez parlé de son retour.
Voulez-vous qu'on parle de l'itinéraire?
Ah ben, je veux bien, mais alors avant de parler de l'itinéraire, hein, je vais rappeler d'abord à nos auditeurs, ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, que nous sommes sur Radio Accor, d'abord, Radio Accor, que c'est l'émission Rencontre et que tout à fait particulièrement pour cette année 2010, nous interviewons des témoins des pèlerinages de Compostelle. Donc aujourd'hui, nous avons Josiane qui nous parle du pèlerinage au Moyen-Âge, au XIe siècle, hein, avec toutes les références qu'il fallait. Et alors nous continuons, nous allons écouter ce que nous dit Josiane de cette époque. Les grands itinéraires, disiez-vous?
C'est une grande question. Les chemins tels que nous les connaissons actuellement n'existent pas au Moyen-Âge. Il n'y a pas de tête de départ. Tours, Le Puy, Arles ne viendront que plus tard. Comprenez-moi bien, ce qui est tout à fait particulier dans cette pérégrination, c'est que les chemins de Saint-Jacques mènent le pèlerin de relique en relique, d'église romane en église romane. Les itinéraires étaient conditionnés par la notoriété des saints rencontrés au long des routes. Ce sont des voies de reliques. Au Moyen-Âge, le saint est l'avocat auprès de Dieu. Les reliques signifient que le saint habite toujours ce monde, qu'il peut faire des miracles. Autant Dieu est loin, autant le saint, lui, est proche des hommes.
Alors vous dites des reliques, beaucoup, beaucoup de reliques sur les chemins?
Beaucoup de reliques. Vous connaissez Saint-Martin de Tours?
Oui.
Saint-Hilaire de Poitiers?
Évidemment.
Les Espagnols ne sont pas en reste non plus, San Domingo de la Calzada.
Oui.
Qui, non content de bâtir une église, un pont, une route, aurait fondé un hôpital dans le lieu qui porte son nom. Également son disciple, San Juan de Ortega. Les reliques corporelles sont présentées dans des châsses d'or et de pierres précieuses.
Oui, j'en ai vu. J'ai
offertes,
vu des châsses d'or, oui.
Elles sont offertes à la vénération du pèlerin. Voulez-vous avoir une petite idée de cet inventaire?
Oui,
insolite,
allez, insolite certainement.
Et un peu morbide. Suivant les étapes, on peut trouver les différentes parties du squelette des seins, des côtes, des fémurs, des dents, des cheveux, ainsi que d'autres souvenirs liés au christianisme, tels que des fragments de la croix, du sang de Jésus, du vin des noces de Cana, des poils de la barbe de Noé. Peu importe l'authenticité, ce qui compte, c'est ce qu'en dit la tradition et les miracles rapportés.
Ah ben en effet, oui, peu importe, parce que vraiment, c'est un drôle de panel.
Le culte des reliques mènera le vagabond de Dieu jusqu'en Galice, à l'étape suprême, celle du tombeau qui contient le corps de Saint Jacques, dans la cathédrale de Compostelle, dans une atmosphère de prodiges et de merveilles qui permettra de terrasser le démon. Notre pèlerin s'inclinera devant Jacques le Majeur, fils de Zébédée et de Marie Salomé, frère de Jean l'Évangéliste, compagnon de Jésus de Nazareth.
Tout à fait, ça c'est pas une relique. Moi, pour moi, les reliques, c'est vraiment un petit bout de quelque chose, d'un saint. Alors que Santiago, c'est le tombeau de Saint-Jacques.
Voilà. Et vous savez qu'il y a un petit lien avec Poitiers. C'est à Compostelle que mourut Guillaume X d'Aquitaine, père d'Aliénor, reine de France et d'Angleterre, au terme de son pèlerinage, le vendredi saint de l'année 1134. On dit que Monsieur Saint-Jacques le reçut dans ses bras.
En effet, le Poitou était présent à Compostelle. Il y est toujours d'ailleurs. Il a été inhumé dans la cathédrale de Compostelle,
Guillaume. Oui, oui. Ouais. C'était vraiment une très belle mort.
Oui, bien sûr, à tout prendre, il valait mieux mourir à Compostelle plutôt que sur un chemin de traverse dans les environs de Poitiers, après de tomber dans une embuscade avec des brigands.
Oui.
C'était plus glorieux aussi.
Oui, c'est assez extraordinaire.
Et bon, les itinéraires, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Hein, rapidement. Et le pèlerin donc parlait de chez lui. Le pèlerin partait de, chez,
partait
lui.
De chez lui.
Il partait de chez lui. Oui.
Mais à l'heure actuelle, il y a des gens qui partent de chez eux également.
Oui, je sais. Il y en a qui s'en vont de chez eux, d'autres qui préfèrent prendre un point de départ officiel comme la cathédrale du Puy, la cathédrale de Vézelay. Hein. Mais partant de chez eux, je vois très bien d'ailleurs que c'est... Dans tous les documents dont vous nous avez parlé, vous avez parlé d'Emery Picot.
Alors, Emery Picot, c'est quelqu'un de très célèbre pour les pèlerins. En fait, c'est le premier écrit qui existe au sujet du pèlerinage. Mais ce n'est pas un guide. On l'appelle à l'heure actuelle le guide du pèlerin. Ce mot n'existait pas dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. D'abord, peu de pèlerins savaient lire et ils n'avaient pas connaissance de cet écrit. C'est un témoignage passionnant d'un moine poitevin qui décrit l'itinéraire qu'il a parcouru. Monuments, reliques à vénérer, population à comprendre, conseils pratiques sur la route à suivre. Emery Picot, après avoir fait l'éloge des poitevins, écrit quelques passages savoureux que je ne peux résister au plaisir de vous donner. Les Basques sont des gens féroces et la terre qu'ils habitent est hostile par ses forêts et sa sauvagerie. La férocité de leur visage et semblablement celle de leur parler barbare épouvante le cœur de ceux qui les voient.
Voilà un genre de document qu'il ne faut pas laisser traîner entre toutes les mains.
Surtout la veille du départ.
Oui.
Les Navarrais n'ont rien à envier à leurs voisins. Ces gens sont mal habillés, mangent et boivent mal. Chez les Navarrais, toute la maisonnée, le serviteur comme le maître, la servante comme la maîtresse, mangent tous ensemble, à même la marmite, avec leurs mains, sans servir de cuillère et boivent dans le même gobelet. On croirait voir des chiens ou des porcs dévorer gloutonnement. En les écoutant parler, on a l'impression d'entendre des chiens aboyer. Pérégrinus, étranger, c'est cela que ressent notre pèlerin quand il traverse ces contrées hostiles.
Oui, elles sont hostiles parce que Parce que ça devait être la mode, le pèlerin, ça ne devait pas être très très bien vu dans tous les pays qui étaient traversés aussi. Il y avait peut-être de ça. Hein. Bon. Alors, Aimery Picot, donc il était Poitevin, on m'a dit qu'il était de Parthenay, c'est ça, Parthenay le Vieux.
Oui.
Et a-t-il écrit autre chose que la description ? Vous m'avez dit, il a fait le témoignage de son pèlerinage et des régions qu'il avait traversées. Les reliques à voir, c'est ça ?
C'est ça. En fait, c'est le cinquième chapitre d'un livre intitulé « Le Codex Calixtinus » qui est conservé aux archives du chapitre de la cathédrale de Compostelle. Aimery Picot n'en a écrit qu'une petite partie, mais très précieuse, parce qu'il décrit les populations, mais il décrit également les fleuves, ceux auxquels on peut faire boire les bêtes, au contraire, le cheval risque la mort parce que l'eau est empoisonnée. Il décrit également tous les saints, leurs reliques. Il est incollable, comme on dirait actuellement. Il n'y a aucun secret pour lui. Sur les bords de la Loire, on doit rendre visite au corps de Saint-Martin, évêque et confesseur. Il est là, lui qui ressuscita de glorieusement trois morts et rendit à la santé qu'il souhaitait lépreux, énergumènes, infirmes, lunatiques, ainsi que d'autres maladies.
Dites-moi, les traditions, vous avez quelques traditions du Moyen-Âge qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui ou...
En fait, je pense que les traditions perdurent, puisque le pèlerin qui arrive à Compostelle, que ce soit au XXIe siècle ou au Moyen-Âge, fait absolument le même itinéraire et ressent les mêmes émotions. Le but est atteint. Il a réussi ce lourd défi lancé à lui-même. Après avoir traversé la ville, voici la cathédrale tant espérée. Il porte la main, les doigts tendus, sur la colonne de marbre où l'apôtre figure en majesté. Il entend la messe et s'émerveille devant le botta fumero, immense encensoir d'argent balancé à toute volée dans le transept. Le parfum de l'encens couvrait, dit-on, l'odeur des pèlerins.
C'est vrai, il ne devait pas se laver tous les matins, je comprends ça.
Et puis, après avoir touché l'épaule de l'apôtre, notre pèlerin se dirige vers la Puerta del Pardon. La Puerta Sancta, cette porte, murée habituellement, n'est ouverte que pendant l'année jacquaire, année sainte où le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, tombe un dimanche. 2010 est année jacquaire. Allez prier à Compostelle. Les péchés s'envoleront vers le ciel par cette porte qui ne s'ouvrira à nouveau qu'en 2021, dans 11 ans. C'est bien loin.
Oui, c'est bien loin. Je comprends. 2010 va être en effet une très grande année, une très grande année pour les pèlerins et puis pour tous ceux qui s'intéressent également aux événements jacquaires. Hein. Eh bien, voilà une conclusion tout à fait agréable pour tous les pêcheurs que nous sommes. On peut prendre le chemin de Compostelle. Hein. Et nous vous remercions, Josiane, bien sûr. Nous vous remercions de nous avoir fait vivre ce pèlerinage, d'avoir suivi avec ce pèlerin ses chaussures usées, sa calebasse, son bourdon, son chapeau contre la pluie. Et je conseille à tous nos auditeurs de passer à Châtellerault et d'aller voir à l'église Saint-Jacques, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, la statue de Jacques en pèlerin. C'est tout à fait la description de ce pèlerin du Moyen-Âge, tel que nous l'a transmis la tradition, tel qu'on l'imagine. Le pèlerin d'aujourd'hui est habillé d'une façon beaucoup plus moderne, j'allais dire, pour ne pas faire de publicité, comme on peut être habillé en sortant de chez Intersport ou de chez Decathlon. Hein. C'est le short à manches longues. Mais enfin, vous nous avez beaucoup intéressé, Josiane, nous vous remercions beaucoup. Et chers auditeurs, chers amis, nous nous retrouverons la semaine prochaine à nouveau dans cette émission Rencontre et nous écouterons peut-être de nouveaux témoignages aussi intéressants que celui d'aujourd'hui.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de mon poste. Ultréa, ultréa. Deus Vos.